Dom Théo. Dom Théo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Frère Édouard, bonjour.
Bonjour, frère Philippe.
Nous avons largement cherché dans le catéchisme, enfin étudié dans le catéchisme, toutes ces sections où il était question de la passion du Seigneur Jésus, de sa mort, la descente aux enfers. Nous avons essayé d'évoquer la question des fins dernières aussi, ce que c'est notre foi dans le paradis, le purgatoire, les enfers. Donc nous avons quand même pas mal, si je puis dire, si tu me permets ce mot-là, essoré ces questions-là. Mais là, nous voilà arrivés à ce que l'on va bien appeler le cœur même de notre foi. La foi chrétienne s'appuie sur ce que le catéchisme à l'article 638 commence par cette citation des Actes des Apôtres. « Nous vous annonçons la bonne nouvelle, la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie en notre faveur à nous leurs enfants, il a ressuscité Jésus. » La résurrection du Christ Jésus est le cœur de la foi des chrétiens. Et on verra d'ailleurs, si on prend dans l'article suivant, 639, il va être fait mention du chapitre 15 de la première lettre aux Corinthiens, qui est un morceau important, si je puis dire, puisque saint Paul va devoir rendre compte de la résurrection du Christ et ce que cela implique pour nous, pour notre propre résurrection. Il va en rendre compte aux Corinthiens à qui il parle, qui ne peuvent pas entrer comme ça dans la résurrection. Donc on est au cœur de notre foi chrétienne. Je dis tout ça pour bien dire, c'est quelque chose d'essentiel pour nous. Notre foi est là.
Notre foi est là et tous les dimanches, nous le rappelons, puisque le dimanche, c'est le jour où nous célébrons la résurrection du Christ. Et j'aimerais, avant même de référer les différents textes du Nouveau Testament et sans doute aussi de l'Ancien, si nous avons le temps, de reprendre cette très belle tradition donc de la liturgie byzantine, du tropaire de Pâques qui le proclame, le Christ est ressuscité des morts, Christos anesti ek nekron, par sa mort il a vaincu la mort, Thanato, Thanaton, patissas, aux morts il a donné la vie, kaitois, entois, nimasi, zoin, carissa, menos. Et nous le chantons dans le Saint-Sépulcre, à l'Anastasis, oui. Et c'est magnifique quand on voit le peuple de Dieu, le jour de Pâques, qui se lève pour proclamer la résurrection du Christ. C'est un élan, d'abord, la foi. C'est un élan du cœur, c'est un élan de l'âme tout entière conquise par la vérité de la foi. Et c'est vrai que les apôtres sont les premiers témoins qui nous ont transmis le flambeau. Nous avons non seulement les discours de saint Paul dans les Actes des Apôtres ou de saint Pierre, mais aussi les prédications qui nous sont parvenues par les lettres. Et le texte le plus ancien auquel tu faisais référence, qui est daté de l'année 56, « Je vous ai donc transmis ce que j'avais moi-même reçu, à savoir que le Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été mis au tombeau, qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, qu'il est apparu à Céphas, puis aux douze. » Et ce texte de la première épître aux Corinthiens, donc, est le plus ancien, même par rapport aux évangiles, de l'affirmation de cette résurrection d'entre les morts. Et on voit que saint Paul s'appuie sur une ligne de témoignage. Il y a Pierre, qu'il appelle Céphas, son vieux nom, je dirais, tel qu'il a été transmis dans la tradition araméenne, et les douze. C'était important que ceux que avait choisi Jésus pour le fondement de l'Église soient les témoins, et pas seulement les disciples. On a les saintes femmes, on a Marie-Madeleine, on a beaucoup de personnes extrêmement importantes dans cette ligne de transmission qui sont bien transmises par les évangiles. Mais finalement, le moment fondamental, c'est est-ce que les douze sur qui Jésus voulait fonder l'Église ont cru en cette résurrection ? Eh bien, oui, y a eu cette foi, et Céphas lui-même est allé au tombeau et a cru à la suite de Jean. Il a eu une apparition aussi, comme le dit très bien 1 Corinthiens 15. Et donc il y a eu une tradition de la résurrection qui s'est appuyée sur un témoignage vivant, ils ont vu le Seigneur ressuscité, et d'autre part sur une relecture des Écritures. On peut se demander d'ailleurs quel texte de l'Ancien Testament ont pu jouer. Eh bien, nous avons donc le psaume 15 en, dans la version de la Septante, 16 dans la version hébraïque, dans lequel il est dit, et les premiers, je dirais, discours après la Pentecôte de Pierre s'appuient dessus, de même les discours de Paul. Mon cœur exulte, mes entrailles jubilent, et ma chair reposera en sûreté, car tu ne peux abandonner mon âme au Shéol, et tu ne peux laisser ton ami voir la fosse. Voilà ce sur quoi s'appuie finalement la prédication. Ils ont relu les psaumes d'une manière croyante. Et ils ont vu qu'il y avait donc une coïncidence entre leur expérience du Christ ressuscité, que lui-même avait annoncé, parce que Jésus a beaucoup annoncé sa résurrection d'entre les morts. Dans saint Marc, on le voit par trois fois, il y a, avant même la passion du Christ, il y a les annonces de la résurrection, et ces trois annonces sont quand même assez frappantes. C'est après la transfiguration. Il commença, est-il dit, au chapitre 8 de saint Marc, de leur enseigner « Le Fils de l'homme doit beaucoup souffrir, être rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, être tué et après trois jours ressuscité. » Et c'est ouvertement, dit l'évangéliste, qu'il leur disait ces choses. Et Jésus le répète une deuxième fois « Le Fils de l'homme sera livré aux mains des hommes et ils le tueront, et quand il aura été mis à mort, après trois jours, il ressuscitera. » Mais ils ne comprenaient pas cette parole, ils craignaient de l'interroger. Marc chapitre 9, verset 31. Et encore une troisième fois, alors qu'ils sont en route vers Jérusalem, donc vers la Passion, « Voici que nous montons à Jérusalem, dit Jésus, et le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort et le livreront aux païens. Ils le bafoueront, cracheront sur lui, le flagelleront et le tueront. Et après trois jours, il ressuscitera. » Marc chapitre 10. Donc il y a eu trois annonces de non seulement de la passion, évidemment ils ont été surtout sensibles à la passion, parce que comprendre que leur maître allait subir ce rejet des grands prêtres jusqu'à sa mort, bah, c'était ça surtout qui était la focalisation certainement des apôtres. Mais en même temps, à chaque fois Jésus annonce cette bonne nouvelle qu'il ressuscitera. Et c'est quand même assez frappant quand on relit ces textes, que quand il parle du signe de Jonas dans Matthieu 12, 40, ben c'est un signe, là aussi, de quelqu'un qui passe par les eaux de la mort dans la baleine, et puis qui finalement en sort vivant. Et surtout, dans Jean 2, 19, il y a ce passage que le Christ annonce que le temple va être détruit, mais qu'en trois jours, il va le reconstruire. Hein. Défi lancé aux Juifs de la reconstruction en trois jours du temple qui sera détruit, Jean 2, 19, et les apôtres, après coup, disent que sur le moment, ils avaient été un peu frappés de cette prédication, surtout après l'expulsion, je dirais, des vendeurs du temple, et qu'on dit ils crurent à l'Écriture et à la parole qu'il avait dite, Jean 2, 20, 21, après sa résurrection d'entre les morts, parce qu'ils ont compris que le temple dont Jésus parlait, c'était le sanctuaire de son corps. Aussi, quand il ressuscita d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent ce qu'il avait dit, et ils crurent à l'Écriture, ils crurent à la parole de Jésus. Alors, c'est vrai que les paroles de l'Écriture sont au total assez modestes. Quand on rencontre un juif, on dit, mais c'est vrai que les juifs réagissent un petit peu en disant, mais il n'y a pas beaucoup de textes dans l'Ancien Testament qui annoncent que le Messie ressuscitera. Et de fait, on a le passage d'Osée, qui dit « Venez, retournons vers le Seigneur, il a déchiré, il nous guérira, il a frappé, il pansera nos plaies, après 2 jours, il nous fera revivre, le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons en sa présence. » Mais cette parole, en fait, est quand on lit l'ensemble de cette prophétie d'Osée, est un moment de retour éphémère au Seigneur. Ça n'est pas quelque chose de définitif. Et donc les Juifs peuvent toujours dire votre prophétie, elle n'est pas très très enracinée dans l'Ancien Testament. Alors nous avons quand même le passage du Deutéronome chapitre 18 qui nous dit que Dieu enverra un prophète comme Moïse. Or Moïse, on n'a pas sa tombe. Moïse a été, selon la tradition rabbinique, enlevé dans un baiser d'amour. Donc il y a quand même quelque chose qui les interroge. Je reconnais que ce 18-25 qui a beaucoup, 18 exactement, je leur susciterai au milieu de leurs frères un prophète semblable à toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai, a quand même une ligne d'interprétation dans laquelle un juif se laisse quand même interpeller en se disant, il s'appuie sur les Écritures, il y a quelque chose quand même qui interroge, même si ce n'est pas décisif. Et de même, le témoignage, on est toujours frappé par le témoignage de quelqu'un, est-ce que c'est pour autant décisif? Quelqu'un me dit cela, j'y crois parce que j'adhère dans le fond à l'ensemble de ce qu'il a, à l'ensemble de ce qu'il dit, mais je peux rester sur ma faim. Et c'est ça qui est le mystère de la résurrection, c'est qu'il faut plonger, il faut accepter cette foi qui m'est donnée.
Un acte de consentement.
Un acte de consentement, exactement.
Allez. Merci frère Édouard.
Avec joie.